de garder que l'esthétique et du coup de retirer le côté rituel, vous dites, de ne pas toucher aux ancêtres, etc. J'ai du mal à comprendre ça, puisque comme ça fait intrinsèquement partie de cette culture et de ce textile, j'ai l'impression qu'il y a un appauvrissement du coup symbolique.
Oui.
Lorsqu'on utilise un
motif, par exemple, on répondra après.
Un fan, ce genre d'écorce, juste pour sa valeur symbolique et pas pour tout le background culturel, je trouve qu'il y a un appauvrissement qui est presque de l'ordre du. Il faut que ça
vende. Non. Ça, c'est vraiment un raccourci qu'on ne cherche pas à faire, surtout.
Non, on va répondre après. Mais non, mais justement, par rapport au Bougoulan, par exemple, ça a été ouvert et il y a énormément, après, avec l'Institut national des arts, il y a énormément d'artistes qui se sont mis au Bougoulan et qui ont rajouté, qui ont enrichi les idéogrammes, la base d'idéogrammes du Bougoulan. Donc, qui ont travaillé là-dessus et qui l'ont enrichi, donc on n'est pas là-dedans. Et après, moi, comme disait très bien Stéphanie, l'idée, c'est que ça rapporte de l'argent aussi aux artisans. Moi, je préfère qu'une marque comme Hermès, par exemple, travaille avec des tisserands, des techniques de tissage Manjac, et mette le prix plutôt que d'aller au Sénégal et de voir des productions banalisées moins chères, bon marché, pour vendre à tout prix. Je préfère que l'excellence reste, qu'on ait vraiment une image positive du travail artisanal, plutôt que de dire ben on fait du cheap parce qu'on a besoin de vivre. Donc ça me gêne pas, à la limite, si c'est l'Europe qui achète, du moment qu'ils reconnaissent le savoir-faire et qu'ils mettent le prix, parce que j'insiste là-dessus, c'est vraiment des savoir-faire uniques qu'il faut surtout pas banaliser à tout prix.
L'idée,
voilà.
Oui, voilà. L'idée, c'est d'aller, en fait, pour tous ces créateurs et cette démarche, c'est d'aller rechercher ces savoir-faire et de les faire travailler pour ce qu'ils savent faire. C'est pas de la reproduction de tissus rituels. C'est vraiment de twister finalement un peu le discours. On va avancer et puis on prendra vos points. Typiquement ici, sur quelques exemples, il nous reste que quelques slides, où on vous a mis justement, on a choisi quelques créateurs aujourd'hui qui ont cette démarche d'aller dire, voilà, on a un capital patrimonial qui est très fort, qui est très riche, qui est très inspirant. Typiquement ici, ce sont les peintures sud-africaines que Esther Malango, si vous la connaissez, cette artiste qui a réussi à faire reconnaître et à élever cet art au rang d'œuvre d'art, avec un village qui est maintenant classé, et que Max Sosa, son créateur de mode très connu maintenant sur les scènes internationales, a fait reconnaître et a reproduit sur d'autres matériaux. Mais là, c'est encore une façon de twister un petit peu ce patrimoine culturel, le montrer aux yeux du monde comme savoir-faire qui est très créatif et que l'on peut récupérer pour recréer des discours dans une nouvelle modernité avec, voilà, des savoir-faire qui sont locaux. Typiquement, oui. H&M qui a fait une... peut-être que Zara l'a fait aussi, mais sur une paire de chaussettes.
Oui, c'est... Avec ces dessins-là, justement, le fait que Max Sosa
avait la paternité,
a pu faire retirer de la vente ces chaussettes-là, et justement, s'il n'y avait pas eu toute
cette reconnaissance. Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. C'est en général avec l'original et la copie, c'est que on veut toujours préserver l'original comme dans un écrin précieux et mais si on ne fait pas voir aux yeux du monde pour finalement signer la paternité, c'est que d'autres plus gros, plus forts vont s'inspirer, parce que les gens sont de plus en plus nomades et dans tous les sens du terme, vont s'inspirer de ce qui se passe ailleurs pour reproduire en grand nombre. Et finalement, la paternité, elle n'est pas à celui à laquelle elle devrait nativement revenir. Donc c'est effectivement grâce au travail de Max Sosa qui a réussi aussi à ouvrir à d'autres scènes d'images ce patrimoine culturel qui sinon serait resté à l'état de village ou de quelques photographies, a permis cette naissance. Oui.
Mais en l'occurrence,
Est-ce que je peux faire juste une aparté, je me permets, par rapport à Zara, justement, qui fait la même chose partout et qui vole des motifs, et il y a des continents où les gens ne sont pas assez bien organisés pour se défendre. Et notamment, j'ai envie de tous vous dire, n'achetez plus Zara. J'ai vu l'autre jour, moi j'aime beaucoup les bipiles du Mexique et du Guatemala, j'adore ça autant que le tissu africain. Et l'autre jour, j'arrête une femme dans la rue avec un magnifique bipile remonté sur une robe. Je dis, waouh, où est-ce que vous l'avez trouvé, votre bipile? Elle me dit, votre quoi?
Mais c'est ça.
C'est Zara. Alors j'ai été du coup sur Internet et je me suis rendu compte que les femmes se font voler comme sont les femmes indigènes sont dans une position de très grande précarité et pauvreté. Ils viennent, un bipile, ça peut être 6 mois, 8 mois de travail, soit juste tissé, soit tissé, rebrodé. Ils viennent, ils leur prennent pour 20 ou 30 euros. Après, ils piquent les motifs, ils les reproduisent, ils font tout un... Et là, vraiment, il faut vraiment qu'on... Voilà.
Il faut qu'on dise stop au système de la fast fashion, parce que Zara ne s'est jamais cachée de ses techniques, qui est celle de vieille comme le monde. Ça remonte à l'histoire de la haute couture, c'est-à-dire que ce sont les acheteurs, les modélistes qui viennent en défilé et qui ont les moyens de recroquer rapidement et de faire reproduire rapidement des modèles qu'ils auraient vus ailleurs pour offrir des collections toujours plus vite. Donc c'est le principe même de la fast fashion. Mais c'est vrai que dans d'autres industries moins armées pour contrevenir à la contrefaçon, c'est dommageable.
Mais là, en l'occurrence, les créatrices sont les femmes des villages et pas Max Romero.
Oui, tout à fait. Tout
est-ce
à
que
fait.
C'est elles qui touchent les droits
de... Non. Là, c'est vraiment, effectivement, d'où l'importance de valoriser davantage les travails de nos créateurs qui doivent se battre réellement pour se faire reconnaître sur ces scènes où... Cette chaîne de valeur se crée, et là, typiquement, je vous ai mis l'exemple de Imam Aïssi, qui défile depuis plus de 10 ans sur la semaine off de la couture en France, alors que pourquoi il est sur la scène off et non sur la scène on? Ici, c'est l'exemple de sa collection printemps-été qui reprenait l'inspiration des femmes Heroes, que lui, il a renommé sa collection Heroes. C'est donc en hommage aux femmes de cette ethnie matriarcale de Namibie et à leur extraordinaire audace vestimentaire que le couturier a voulu rendre hommage, parce qu'il célèbre là le pouvoir de la mode et l'incroyable résilience de ces femmes qui leur permet de raconter et de témoigner du génocide de 1904 pendant la colonisation allemande. En fait, on a imposé, vous savez que les prêtres missionnaires, c'est l'histoire de la colonisation en général, venaient civiliser les tribus qu'ils rencontraient et jusqu'à leur imposer une manière de s'habiller et des vêtements. Et encore aujourd'hui, ces femmes portent des tenues qui sont... finalement, les tenues de cet héritage tragique, avec des tailles en pire, des manches gigots, des jupes avec énormément de fronces et des volumes incroyables. Imam Aïssi, lui, y voit là une domination sur l'histoire, car finalement, ces femmes ont su réinventer leurs vêtements, lui donner des couleurs personnelles, et ce, dans tous les sens du terme, elles ont réussi à transcender et à sublimer cet héritage douloureux par la mode. Donc c'est aussi tordre le cou à l'histoire que de réinterpréter dans ses couleurs personnelles un vêtement qui était imposé et qui semble encore aujourd'hui ridicule dans le contexte. Voilà, dans l'acte 2 de cette conférence à laquelle on vous convie bien évidemment, qui se passera à l'IFM, Imam Aïssi a cette démarche, si vous vous intéressez un petit peu à son travail, d'être toujours dans la réinterprétation d'un patrimoine culturel. Donc lui, il va vraiment aller dans les villages, au fin fond des villages, chercher ces artisans qui ont ce savoir-faire et sur lesquels il va créer ses commandes spéciales. Parce que vous savez qu'on est encore dans une... on est encore et on espère. Et si le sur-mesure est reconnu comme le summum de la couture et après cher, Il se trouve que c'est l'héritage, toute l'Afrique est fait comme ça, en surmesure. Donc c'est vraiment cette démarche qu'ils souhaitent valoriser et faire reconnaître et déclencher aussi de la presse et des acheteurs. Alors ils parlent de ces clientes comme des collectionneuses parce que finalement c'est acheter un vêtement Imana ici, c'est presque acheter une œuvre d'art. Alors on a de nouvelles influences qui participent aussi à rendre toutes ces créations de façon plus visible, finalement de créer de nouvelles narrations. Beyoncé pour ça est une extraordinaire icône. D'abord, elle est reconnue par ses pairs pour son exercice, mais aussi est une excellente ambassadrice internationalement reconnue. Et dès qu'elle achète une création, tout le monde l'achète parce qu'effectivement, elle a énormément de presse. Donc, elle a participé à vulgariser encore davantage le pagne Angelina. C'est celui-là qui a eu plusieurs noms, comme Anne le disait.
Yamado, Dashiki.
Voilà. Qui est un des motifs encore aujourd'hui les plus vendus au monde.
Même s'il n'a jamais été fabriqué en Afrique, paradoxalement. C'est le tissu le plus fédérateur, mais qui est... originaire de Viscose, c'est qu'ils ont créé en 1963. Et aujourd'hui, la plupart des versions sont imprimées en Asie. Et donc, à part la confection qui peut être faite en Afrique, acheter ce tissu, finalement, ne rapporte rien de manière économique au continent africain. On est dans l'idéologie, si vous voulez, dans l'affectif. Mais de se sentir, de faire partie de cette diaspora ou de ce mouvement. Mais concrètement, on n'est pas acteur de l'économie voilà. bénéfique.
Alors, les choses peuvent changer et se changent lentement grâce à l'achat de femmes influentes qui portent sur des scènes très remarquées ces tissus qui seraient... Ces tissus et cette mode qui est de création africaine, telle que Michelle Obama qui a acheté en maquillot, Beyoncé qui participe finalement assez activement et assez de façon revendicative à l'éclosion, finalement, à la visibilité de ses créateurs. Elle a habillé toute son équipe pour un clip en Loza Maleombo. Elle est allée aussi chercher des créations de Célie Rabican, qui est vraiment une jeune garde pour elle-même, effectivement. Elle, Lupita Nyong'o, et ça c'est important parce que ce sont Lupita, elle s'est fait reconnaître internationalement grâce à ses awards, enfin ses récompenses suite au film 12 Years a Slave, donc qui racontait justement cette femme pendant l'esclavage et grâce, elle a été reconnue en tant qu'actrice dans cette histoire très forte. Donc je trouve que c'est particulièrement intéressant qu'une ambassadrice telle que Lupita porte des créations africaines. Donc maintenant que vous êtes infusée de toute cette connaissance et de tout ce que renferme le tissu et la création africaine en général, vous savez à quel point ça peut être comme un acte de revendication, au-delà d'avoir une création jolie et esthétique, que de porter un tissu africain aussi moderne qu'il soit. Et aujourd'hui, ces créateurs, bien sûr, veulent conquérir, recruter des acheteurs qui viennent d'abord pour cet effort esthétique, mais derrière, on peut leur reconnaître cette capacité à mobiliser énormément d'efforts pour créer sur place, parce qu'une collection, vous savez, ce rythme de la mode qui va de plus en plus vite et qui offre jusqu'à 4-6 collections par an avec des capsules, avec des collections croisières, avec un rythme fou dans ce secteur d'activité. Quand on a cette exigence d'aller chercher, de faire une démarche presque de chercheur, parce que finalement, ils permettent, ils sont comme le griot pour sa partie, le créateur africain, même s'il est... qui à cette démarche de faire du Made in Africa avec une production en partie sur le continent, lui, il est soumis à un rythme artisanal avec une recherche de fils de matière, d'entrants, enfin tout ce qu'on vous a raconté plus tôt, qui est nettement plus difficile. Donc un juste retour pour eux serait effectivement une vraie visibilité de cette création avec un prix, parce que un prix qui soit celui à juste titre valorisé et sur des belles scènes et en termes financiers aussi. Donc on vous encourage forcément à aller acheter ces créateurs africains, donc de rendus de plus en plus visibles grâce à des plateformes. Donc le digital est vraiment un allié pour ce continent, parce que jusqu'à présent ce sont des créations qui étaient rarement accessibles du fait du manque de points de vente. Aujourd'hui, vous avez des plateformes qui vous permettent de les trouver en ligne, et puis parfois, lors des Fashion Week, vous avez aussi des showrooms. Petit à petit, moi, je trouve que les collaborations ont au moins ça de bon, qu'elles permettent, dans un temps court, au moins d'acheter, c'est-à-dire cette rencontre entre l'acteur qui possède l'outil industriel. Je pense par exemple à Maison Château Rouge, qui ne vous a pas échappé puisqu'ils étaient dans les magasins Monoprix. Vous avez... Oui. Youssouf Fofana, Maison Château Rouge.
J'avais vu les vitrines au Monoprix qui étaient formidables. Bon, enfin, c'était désolant parce que la moitié des choses étaient faites au Vietnam. Donc, pour moi qui ai vu comme Anne la beauté des artisans au Burkina, au salon de l'artisanat, dès les années 90, je veux dire, il y a une injustice
totale. Mais quelque part, c'est pas grave. Et que la prochaine collection, elle sera faite en Côte d'Ivoire avec du wax uniwax.
Voilà.
Château Rouge signe avec la Redoute une collection. Apparemment, elle est déjà en ligne, parce que justement, ils ont commencé à travailler avec du Blisco, parce que l'histoire, c'était quoi, ce que ça représentait au niveau de son histoire personnelle, que le Blisco est issu de référence. Donc il a d'abord travaillé avec du Blisco, parce qu'il voulait se mettre dans la qualité. Après, effectivement, il y a eu cette collaboration asiatique qui a permis de rendre accessible, voilà. Mais en fait, qui était juste esprit du wax. Ça faisait africain, mais c'était pas africain. Donc je suis allée les voir en disant, vous savez, vous avez la notoriété, lancez-vous dans du vrai Made in Africa. Et là, ça y est, c'est signé, c'est acheté. Et donc la prochaine, allez-y, avec la Redoute. Je sais pas, oui, je sais pas où c'est cousu, en revanche, mais le tissu vient de Côte d'Ivoire, je vous le garantis.
Et puis, quelque part, ça crée au moins... La vulgarisation, ça crée au moins une première visibilité et ça permet aux gens, c'est le phénomène des vitrines, ça permet aux gens de se dire, ah oui, tiens, pourquoi pas ? Et voilà, ça existe, et pourquoi pas ? Et tiens, c'est joli là, et c'est joli là. Et ça c'est comme, il n'y a pas longtemps, ça date de 3 ans maintenant, seulement, que donc au Burkina Faso, comment on appelle ça, une règle législative, une loi, voilà, j'ai cherché, est passée pour demander, imposant, en fait, au chef de l'État, au ministre, de représenter la richesse patrimoniale nationale dans les cérémonies officielles. Donc de porter non pas le costume 3 pièces occidental, mais de porter les vêtements traditionnels made in Burkina Faso, donc made in local, lors des représentations officielles, notamment au Burkina Faso, mais aussi à l'étranger. Et ça, l'idée, c'est de faire des petits. Et de vous savez... Pathéo a été connu grâce au fait que Mandela, à sa libération, ait porté cette fameuse chemise made in Côte d'Ivoire qui a été faite par Pathéo. Et là, ça a changé, ça a permis de décentrer le regard sur une fabrication. Et pourquoi pas dans des dîners officiels, dans des sur des icônes telles que ça ou sur des scènes aussi importantes, c'est tout compte. À ce stade, tout compte. Donc, c'est un premier pas que de vulgariser. Et deuxième pas, grâce à des gens comme Anne, c'est de dire, bon, maintenant, on joue sérieusement.
C'est-à-dire ce qui est déjà fait, ce qui est fait dans les pays, notamment européens, où les femmes de présidente sont,
tout à fait.
Sont habillées...
Dans nos... Le président est habillé en Vuitton. Parce que ces fleurons de l'industrie française, ça fait partie de l'exception française. Culturelle. Tout à fait.
Ils le font, mais pas depuis si longtemps, parce que l'image d'être habillée en roue n'était pas sérieuse, en fait, vis-à-vis de l'Europe ou des pays du Nord. Aujourd'hui, d'aborder ça, ce sérieux, cette histoire, cette tradition...
Voilà.
Mais parce qu'aujourd'hui aussi, pardon... Parce que vous avez très bien choisi le mot. Il y a le boubou, justement, les chefs d'État, je pense au Nigeria, au Mali, etc. Mais aujourd'hui, justement, grâce à la haute couture, on propose du made in Africa qui ne fait pas forcément traditionnel, qui ne renvoie pas au, au code vestimentaire traditionnel et qui propose d'autres styles vestimentaires, comme la chemise Mandela. C'est à la fois un mélange associé des codes culturels même universelle, c'est même pas la chemise, elle n'est pas plus occidentale, elle devient universelle avec une matière, puisque Patéo travaille à la fois, il a été promu par Uniwax avec les ciseaux d'or en 87, et puis maintenant il travaille avec les tisserands d'Anfani du Burkina Faso, et les teinturiers aussi sur le voile. Donc c'est travailler avec des teinturiers, des tisserands et des brodeurs aussi. Donc c'est un vêtement qui n'est plus, il est africain, mais il... Ils ne rentrent pas dans un registre, ils sont habillés de manière traditionnelle avec le grand boubou. Et c'est pour ça que c'est,
voilà. C'est cette démarche,
voilà, ces créateurs vraiment apportent quelque chose de très nouveau. Et je fais la transition, pas encore, pour la prochaine fois.
Et, ah, non, et
tu finis ?
Oui.
D'accord, vas-y.
Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est aussi, avant, on avait quand même le poids de cette France-Afrique, de cette colonisation, et l'idée, enfin, pourquoi ça arrive si tard, c'est pour s'affranchir de cette histoire qui nous a longtemps pesé. Maintenant, l'Afrique grandit, et finalement, en tout cas pour notre message aujourd'hui, c'est de dire qu'elle peut représenter le futur, en tout cas un futur sur cette création qui, je ne sais pas, moi je suis complètement du sérail, hein, parce que j'ai quelques collègues autour. Bon, je prends la parole sous l'Institut français de la mode, mais c'est de dire que si vous regardez les dernières Fashion Week, il y a énormément de copies, et de plus en plus de copies. Là, on peut avoir un patrimoine qui est complètement réinventé, inspirant, et sur lesquels des ponts peuvent se faire et des passerelles peuvent se faire. Et j'ai trouvé plutôt intéressant la démarche de Ruth Carter qui a fait, voilà, ça tombe bien, on est en plein cinéma, qui a utilisé, qui s'est vraiment inspirée et qui est allée, qui a fait une démarche d'ethnologue, anthropologue, je peux dire, hein, parce qu'en observant les différentes, en tout cas différentes traditions vestimentaires africaines pour créer les personnages, les premiers super-héros, enfin les vêtements des premiers super-héros africains dans le film Black Panther qui a explosé au box-office, qui a été un des premiers films le plus vu en Afrique aussi, avec des salles de cinéma qui se sont montées pour l'occasion. Donc, c'est véhiculé de nouveaux messages pour toute cette jeunesse africaine, avec des, encore une fois, et puis quelque part signé le fait que l'Afrique reconnaisse, faire reconnaître que l'Afrique a toujours été très riche dans ses ressources, mais que très souvent c'est peu connu, c'est un peu l'histoire sous-jacente. Alors, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a plusieurs lectures, selon son prisme, son angle de vue d'ailleurs. Et j'ai trouvé particulièrement bien le fait qu'elle préserve une certaine tradition, donc du perlage dans l'ornementation corporelle, et qu'elle a twisté avec des formes, des nouvelles formes, mais qu'elle leur a prêté aussi des super pouvoirs. Parce que c'est justement la transition qu'on peut faire sur l'acte 2, c'est de dire que pourquoi pas. Si ce textile a tant de signification aussi, il a les techniques aujourd'hui peuvent permettre de le réinventer sur de nouveaux supports, et on explorera avec d'autres professionnels des façons de le réinventer et pas que sur le textile.
Voilà. Et donc, la prochaine fois, ce sera aussi l'idée de travailler justement autour de cette notion de savoir-faire et étoffe traditionnelle. Donc aujourd'hui, on a vu vraiment les étoffes originelles, on va dire. Mais tous ces savoir-faire qui ont été développés, ces techniques de tissage, de teinture en réserve, ensuite, elles s'approprient les matériaux que les industries européennes vont apporter, donc des étoffes à teindre qui vont être plus fines, du voile, du basin, etc. Donc on va voir la naissance des voiles Melfa de Mauritanie, du basin avec les techniques saracolé, seminqué. Et en fait, grâce à ces savoir-faire qui étaient là, l'industrie n'a pas appauvri l'artisanat, mais l'a diversifié davantage et l'a enrichi. Je vous fais juste le teasing, là. C'est-à-dire, par exemple, que quand on essaye de faire des coutures sur une étoffe filée à la main, tissée à la main, etc., c'est assez épais et rustique, alors que quand on est sur une matière très, très fine, on s'aperçoit que finalement, les artisans, ils arrivent à faire des ligatures de ce qu'on appelle le tritique très, très fin, à associer plusieurs couleurs, à les superposer, alors qu'on ne pouvait pas le faire avec l'indigo et la cola. Et on se rend compte de ce potentiel qu'elles avaient. Et donc, tous ces savoir-faire qu'on a juste évoqués aujourd'hui, ils sont magnifiés finalement. Et la même chose avec les tisserands, le fait d'introduire du lurex ou de la soie ou des petites touches en brochet ou du rabane, etc., fait que le travail artisanal va être magnifié grâce aux matériaux de l'industrie. Voilà.
Alors voilà. Nous vous remercions pour votre attention et vos contributions. Merci beaucoup. En juin prochain, sans doute autour du 13 juin, mais à confirmer, on passera aussi cette communication auprès du CNRS et puis on fera sous forme d'atelier grâce aux archives d'Anne de la matière que vous pourrez toucher et puis quelques films qui sont parus récemment, dont on aura quelques extraits, qui vous montreront un petit peu comment se passe justement ce tissage dans les villages avec l'intervention de ces créateurs et la démarche de ces créateurs. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez regarder d'ailleurs quelques documentaires qui sont super bien faits. Un qui s'appelle Habille-nous Africa, voilà, qui est paru sur Habille-nous Africa, qui est paru sur TV5 Monde, que vous pouvez voir en replay, et un autre qui s'appelle Wax in the City, dont on aura les extraits au mois de juin. Donc, on espère vous revoir bientôt. Alors, à confirmer, mais a priori, ce sera le 13 juin.
Parce qu'on organise dans le cadre de Culture de Mode, donc je pense que la plupart d'entre vous maintenant sont familiers avec ce réseau de chercheurs. En prenant le mot de manière très large, les chercheurs en mode. Donc, on organisera cette collaboration dans le cadre de Culture de Mode et avec toujours cette envie, comme tu le disais, que ça soit un atelier, que ça soit aussi l'occasion de voir du matériel, des matières. Et je pense que c'est aussi passionnant et que ça sera très complémentaire avec votre communication. Mais je pense qu'on va prendre des questions.
Je passe mes micros.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était extrêmement intéressant, extrêmement riche. Vous n'avez pas évoqué en fait les Fashion Week en Afrique. Et donc, il y en a notamment à Dakar, à Lagos, en Afrique du Sud, qui sont extrêmement puissantes aujourd'hui et qui n'ont rien à envier à ce qui peut se passer à Paris. Et il y avait un autre point sur la manière d'appréhender en fait le porté africain avec une dissociation qu'on peut faire entre l'Afrique anglophone et l'Afrique francophone. On va avoir au Nigeria notamment des personnes qui sont extrêmement fières de porter des tenues traditionnelles et on n'appelle pas ça une tenue traditionnelle. Donc moi, ça me paraissait des choses qui étaient intéressantes aussi à mettre en avant sur... Dans la partie francophone, on a un côté peut-être un peu plus... Une emprise de la France ou de la culture occidentale qui est plus forte. Et on a l'impression que c'est les codes européens, les codes classe, on va dire. Et alors que dans la partie anglophone, notamment au Nigeria, moi, j'ai eu l'occasion d'assister à l'élection de Miss Nigeria l'année dernière. Et le Jean-Pierre Foucault local, qui ne ressemble pas du tout à Jean-Pierre Foucault, plutôt un genre d'Idriss Elba mixé avec Boris Kodjo, il porte Une partie de l'événement, il est habillé en costard sur mesure rouge, et puis l'autre partie, il a une tenue traditionnelle nigérienne absolument magnifique. Et c'est vraiment être bien habillé, en fait, c'est vraiment, au contraire, c'est être habillé traditionnel.
Oui, et puis c'est surtout, encore une fois, au Nigeria, il faut savoir que une société très socialite, hein, avec des mariages qui peuvent aller jusqu'à 100 par semaine. Ah. Donc, un besoin de se réinventer tout le temps. Et effectivement, cette culture vestimentaire africaine le permet, puisqu'on est sur du sur-mesure. Donc, c'est une façon de se singulariser. Donc, effectivement, il existe énormément de Fashion Week en Afrique. On n'en a pas parlé là parce que ce sera, je pense, plus l'objet de l'acte 2. Mais sachez que on va vers la voie de la professionnalisation et ça se fédère. On vous montrera et peut-être que certains créateurs pourront être là lors de l'événement.
Et c'est vrai que moi, ça fait 25 ans que je suis sur divers terrains africains. Et en fait, moi, j'assiste à une africanisation de l'Afrique, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que pendant longtemps, aujourd'hui, dans les villages, on est habillé beaucoup plus à l'occidental, malheureusement à cause des fripes. Et en ville, les gens portent de plus en plus de vêtements africains, c'est-à-dire qu'ils auraient les moyens, c'est vraiment par choix. Ils ont les moyens de s'habiller en vrai prêt-à-porter occidental. Et aujourd'hui, il y a des malls partout dans les grandes capitales avec toutes les modes, toutes les grosses enseignes. Mais ils préfèrent aller chez des créateurs, parce qu'à Abidjan, les créateurs marchent très, très bien. Et c'est par choix que les gens s'habillent avec des vêtements africains. Il y a vraiment ce phénomène d'africanisation. La Chine aussi, paradoxalement, participe à ça avec le wax. C'est-à-dire que les jeunes générations, moi, je me rappelle très bien au début, dans les débuts des années 90, 93, 94, je disais à des jeunes de 17, 20 ans, vous ne portez pas de wax ou de tissu, un pagne baoulé, un truc, ils me disaient non, mais... ça va pas, on va acheter un jean, un t-shirt. Aujourd'hui, il y a une soirée, hop, on se fait faire un petit top, un truc, on va prendre un pagne baoulé, on se fait un petit accessoire, un petit gilet, un petit... Donc, il y a vraiment une prise de conscience et un rajeunissement et un... Comme moi, je suis très, très optimiste au niveau de, justement, cet engagement et cette prise de conscience.
Voilà. Oui, et alors, un petit point sur la fripe, effectivement, parce que ça tue le marché. Ce que vous donnez dans un geste généreux, ça inonde le marché africain et c'est revendu à vil prix. Donc ça tue la création locale, hein. c'est
un peu... Oui, ça pollue en plus.
C'est
dramatique.
Je ne sais pas, découper, recycler, upcycler, mais parfois, on vous raconte pas tout.
Pas tout aborder aujourd'hui, bien sûr. Personnellement, je suis dessinatrice et j'ai dessiné pendant plusieurs années un carnet de voyage africain à Paris, de mon quartier, qui n'est pas Château Rouge, qui est métro Couronne Belleville. Mm-hmm. Il y a une communauté d'Afrique de l'Ouest très importante et où, quand je suis arrivée, donc j'ai commencé en 2008, j'avais les yeux comme le loup de Tex Avery quand il voit une pin-up, tellement c'était partout, tout le temps, les femmes en basin, en wax magnifique. Donc je suis rentrée complètement là-dedans à fond. Et maintenant, malheureusement, force est de constater que... Alors, est-ce que c'est la même chose en Afrique ou la loi... faut que je pèse mes mots, attention, hein, je ne sais pas comment le dire d'une façon diplomate. Enfin, en tout cas, maintenant, le wax et le basin, pour la plupart, elles le réservent au jour
de fête
ou au grand mariage. Et sinon, il est caché sous une djellaba noire ou...
Bon, l'islam est devenu la première religion au monde. Hein.
Le sac à patates qu'on appelle Charlie Hebdo. Et moi, j'ai arrêté ce sujet, je suis désespérée. Et en sac à patates, on ne peut pas porter le bamouna brodé avec les broderies qui ont une symbolique d'aumône. On ne peut pas le porter. C'est un pas de manche.
Mais bon. Elles disent aussi quelque part qu'elles ont leur singularité près d'elles, puisqu'elles continuent à porter le vêtement qu'elles chérissent sous la djellaba. Elles pourraient aussi. Mais bon, c'est un autre sujet. Je prends l'autre contribution là-bas. D'accord.
Bonjour à tout le monde. Je voudrais réagir sur le point qui a été soulevé tout à l'heure par monsieur sur la symbolique en fait des textiles et pourquoi est-ce qu'ils sont valorisés d'abord pour leur esthétique et du coup avec un regard occidental. C'est un vrai sujet. Je fais le parallèle avec un événement que j'ai organisé auquel Stéphanie
a assisté. J'aimerais bien que tu te présentes, Alexa, parce que Alexa représente aussi une école partenaire. Alors il faut savoir qu'on est toute une mafia.
Je suis déléguée Afrique des anciens de SCP Europe, qui est une école de commerce sur Paris. Et donc, j'organisais un événement sur les restitutions d'œuvres d'art africaines qui a été décidé par le président Macron. Et quelqu'un en assistance prend la parole en disant, je prends l'exemple d'un masque de ma tribu. Donc, c'est cette personne qui parle et qui dit, il y a un masque de ma tribu qui est un masque fédérateur. C'est-à-dire que tous les rapports sociaux de la tribu s'organisent autour de ce masque. Et aujourd'hui, ce masque est dans un musée. Dans un pays occidental où on l'appelle une œuvre d'art. En fait, la personne m'a reprise parce que j'avais utilisé le terme œuvre d'art. Et dit, c'est pas une œuvre d'art, c'est un objet culturel. Et donc, c'est vrai que ça peut être choquant c'est légitime de se poser la question de comment décentrer le regard et la valorisation, la manière de valoriser une partie du patrimoine africain. Là, c'était les objets culturels, ça peut être les textiles. Cela dit, une grande part de la responsabilité... Les objets culturels, c'est compliqué, puisqu'il y a eu des demandes qui n'ont jamais été satisfaites jusqu'ici. Mais le Ndop, par exemple, le tissu du Cameroun qu'on a vu tout à l'heure, a été repris par Hermès il y a 2 ans, je crois, dans une collection. Ils ont repris des motifs du Ndop. Pour la petite histoire, l'un des héritiers d'Hermès est marié à une femme Bamiyéké dont le père était collectionneur et a une très belle collection de Ndop, etc. A priori, ça s'est passé comme ça. Ça a provoqué l'ire des chefs traditionnels Bamiyéké qui ont dit comment est-ce qu'ils se permettent de reprendre. D'accord, mais qu'ont-ils fait pour que ça n'arrive pas? Ils n'ont jamais protégé le Ndop en faisant quelque chose de singulier, de particulier, ou même en l'inscrivant à l'INPI ou on ne sait où. Donc il y a quand même une responsabilité aussi des sociétés africaines, et notamment à la fois du gouvernement officiel et des chefs traditionnels, sur tout ce qui est protection de la culture, et c'est une responsabilité qui aujourd'hui n'est pas exercée. Moi j'appartiens à une génération d'afro-descendants qui a grandi sans les codes. Je pense que ma mère saurait dire, on a parlé du kaba qui se porte aussi au Cameroun, ma mère saurait dire, enfin sait dire que tel kaba, c'est plutôt les jeunes filles qui le portent, ça c'est les femmes mariées, ça c'est les femmes d'un certain âge, c'est celles qui ont déjà eu un enfant, qui en ont eu 2. Moi je ne sais pas du tout de quoi elle parle. On est dans 2 mondes différents sur ce sujet là donc je comprends que vous soyez choqués sur le fait de dire ben voilà, ces tissus ou ces objets qui ont une valeur symbolique rituelle extrêmement importante se retrouvent quelque part relégués à leur dimension esthétique et d'abord valorisés comme ça, mais malheureusement pour des gens de mon âge, et je ne parle même pas de ceux qui ont 10 ans moins ou de mes enfants dans quelques années, c'est parce qu'effectivement il y aura eu un super défilé à la Fashion Week, c'est parce que Beyoncé l'aura porté, qu'elle aura fait des millions de likes sur Instagram, qu'ils vont se dire « Ah mais attends, c'était écrit que ça vient du Cameroun, mais c'est pas ton pays au fait, maman !» Et c'est comme ça en fait que la société civile va mettre la pression par exemple sur les chefs traditionnels ou sur le gouvernement pour créer plus de musées, pour ramener les objets, etc. Donc, je comprends que vous soyez choqués. C'est quelque chose d'assez... C'est dommage, en fait. C'est un peu triste. Mais je pense qu'on est obligé de passer par là. En revanche, je suis très optimiste sur l'issue du combat.
D'où l'enjeu de la professionnalisation du secteur. Tant qu'on n'aura pas créé cette chaîne de valeur made in Africa, on ne pourra pas protéger nos créations, entre autres.
Alors,
un micro, sinon vous n'êtes pas enregistré.
Beaucoup de m'avoir... c'était vraiment très intéressant ce que vous avez dit. Je trouve effectivement que c'est extrêmement dommage d'avoir à passer par le monde occidental pour récupérer la culture africaine, etc. Moi, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. J'ai adoré votre présentation. Il y a quelque chose qui m'a manqué. Vous avez fait un axe sur la culture africaine, sur le textile africain, etc.
Les cultures africaines.
Bien sûr, excusez-moi. sans forcément recontextualiser la mode et la création haute couture africaine dans une mode un peu plus globale.
Oui, parce qu'encore une fois, c'est un teasing sur l'acte 2.
D'accord.
Parce que là, c'était vraiment, il nous a semblé, quand on a discuté avec Sophie de comment on plante cette conférence, est-ce qu'on switch tout de suite sur ce qui va sembler plus contemporain dans l'air du temps, d'être sur la mode africaine et du coup l'écosystème. Et on s'est dit, ben non, en fait, si on ne va pas du début et on ne les infuse pas de ce qui se cache d'abord sur, derrière le textile, on ne va pas sur l'acte 2.
Parce que justement, j'avais envie que vous réagissiez à un vocable qu'on entend très très souvent lorsqu'il s'agit de mode africaine, c'est la mode ethnique.
Ah non, mais à bannir.
Oui, mais vraiment, en fait, c'est quelque chose que...
D'ailleurs, on l'a jamais dit, effectivement.
C'est comme une sous-catégorie de cette création qui est presque, enfin, qui est complètement dévalorisante et dévalorisée.
Tout à fait.
Et on l'entend partout.
Sauf chez nous. Effectivement, hein, on essaye d'être très prudent et moi j'invite toujours en tant que consultante, enfin dans mon rôle de consultante auprès de grandes marques et de leur dire attention aux imaginaires collectifs qui font que tout le monde on surfe trop sur les clichés et sur des mots qui sont trop englobants et connotés. N'oublions pas que 80% de la population mondiale n'a pas la peau claire et que le fait démographique va vers de plus en plus de mixité. Donc soyons respectueux des singularités de tous. Et le terme ethnique est beaucoup trop englobant. Alors ça fait sens justement en Afrique quand on parle d'ethnie puisque chacun se reconnaît derrière ça, mais ailleurs il faut être très prudent sur ces termes là, là on n'en parle pas et on le redéfinira effectivement quand on parlera de mode dans son écosystème et des passerelles possibles sur en juin, donc on compte sur vous.
Merci.
Il y a d'abord madame, allez-y.
Moi, je me posais juste une question au niveau des motifs, parce qu'en fait, il y a deux parties. Il y a la partie motif et la partie tissage, fabrication du tissu. Et en fait, quand vous nous avez montré tout à l'heure des photos de ce créateur de haute couture qui avait fait un bustier dans l'écorce, en fait, il n'a pas réutilisé les motifs qui, eux, ont un sens traditionnel et une histoire. Il réutilise que finalement la technique.
C'est ça.
Et du coup, il n'y a pas du tout. Enfin. Je pense que
c'est le savoir-faire sur le rituel.
Effectivement, je pense que tous ces motifs traditionnels, peut-être religieux, peut-être des différentes ethnies et qui racontent l'histoire des ethnies, ceux-là doivent peut-être être un peu protégés pour le coup.
Oui, tout à fait. Parce que c'est là, exactement, c'est la démarche des créateurs aujourd'hui, c'est de faire la part des choses entre, on a ce savoir-faire qui est de travailler sur des matières dont on a peu coutume ici, et après, on a toute cette partie de syncrétisme, d'imaginaire, comme tu le définissais, Anne, qui appartient à ces tribus, qui appartient à ces peuples, qui appartient à ces cultures et qui n'a pas sa place sur un défilé, un catwalk que de défilé.
Et après, il y a les musées. Alors moi, je ne parle pas des musées occidentaux. Je parle aussi des musées africains. Au Cameroun, justement, il y a énormément de musées. Je viens de faire la préface d'un ouvrage sur un collectif sur le textile au Cameroun avec une des contributions autour des musées camerounais. Je crois qu'il y a autour de 27 musées qui se sont ouverts dans les 10 dernières années au Cameroun. Oui. Donc il y a aussi des lieux de conservation et de contextualisation de ces étoffes-là. Donc, comme je disais, peut-être qu'elles sont destinées à diminuer, mais pas forcément à disparaître. Il y a un lieu aussi dans ces pays-là qui les ont, dont elles émanent, de conservation et aussi, pourquoi pas quand même, dans les collections des musées internationaux. Mais je les laisserai plus dans les musées avec tout ce travail de collecte aussi d'informations, voire de films, pour garder justement. Voilà.
Oui, continuer la transmission.
Exactement.
C'est ce que disait madame tout à l'heure, la transmission n'est pas toujours faite, en fait. Voilà. Les parents vers les enfants aujourd'hui. Mmh. Donc c'est toute des traditions, une histoire qui se fait et qu'on va retrouver justement dans les musées.
Encore une fois, j'insiste, mais sans professionnalisation, ça ne crée pas de débouchés, donc ça ne retient pas la jeunesse, et donc les codes disparaissent parce qu'ils ne sont pas transmis. Donc,
il y a madame.
Petit à petit.
Madame était avant.
Oui.
Ça y est.
Bonjour, merci pour cette intervention. Je me présente, je suis Paulette Gomis et je suis doctorante en anthropologie et je travaille sur le Pantissé Mandjak. Pantissé Mandjak, que je rappelle qu'il vient de la Guinée-Bissau et pas du Sénégal comme il est souvent identifié. Donc, pour mademoiselle qui est dernière, qui parlait justement, qui était afro-descendante et qui dit qu'il ne connaît, enfin, qu'il ne connaît pas trop la culture, moi, je travaille sur un nouvel outil de communication pour que cette population, enfin, ces afro-descendants, puissent pouvoir comprendre quelque chose, c'est-à-dire ouvrir les sociétés africaines pour que les afro-descendants, et même les autres, hein, j'invite aussi les autres, à comprendre et pour pouvoir justement changer donc les narratives au niveau donc des musées et donc de pouvoir raconter une autre histoire. Bon, alors ma question aujourd'hui s'adresse à Anne Grosfilet et c'est une question qui est bien sûr d'ordre anthropologique. Vous avez parlé donc de couleurs, de bleu indigo, vous avez parlé donc du noir donc, qui venait donc d'une certaine boue pour le tissu, donc le bogolan. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est comment s'interprète les couleurs en Afrique. Ça, c'est un peu...
Non, c'est vrai que c'est la...
je ne serai pas là, je ne serai malheureusement pas là pour l'acte 2, si vous pouvez juste m'ouvrir une parenthèse.
Non, c'est vrai qu'on va en parler beaucoup plus dans l'acte 2, malheureusement.
Il va durer 24 heures, parce que... La charge de l'Afrique et toutes ces variétés.
Non, mais c'est montrer justement comment, à nouveau, l'approche, ce sera de montrer, par exemple, comment l'industrie, finalement, permet aux artisans de s'exprimer davantage. C'est-à-dire que là, ils étaient limités avec le bleu, la cola, etc. Mais au niveau du quinté, par exemple, moi, j'ai des vieux quintés qui sont uniquement, j'ai envie de dire, noir et blanc, mais qui sont en indigo et en blanc et avec des toutes petites portions de couleur. Et au fur et à mesure, ça prend de la couleur et ça s'enrichit d'une symbolique. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que la symbolique des motifs. Et après, se greffe par-dessus la symbolique des couleurs, avec le jaune pour l'or, le bleu, etc. Et le blanc, la pureté, etc. Donc le tissu s'enrichit d'une symbolique graphique et une symbolique chromatique.
D'accord.
Et c'est ça que on va développer. Et comment tout ça, c'est permis par l'industrie. C'est pour ça que je répète, je le martèle, c'est vraiment mon credo. L'industrie n'a pas entraîné un appauvrissement des savoir-faire artisanaux, mais a permis vraiment leur explosion et leur complexification. Très bien. Et les couleurs font partie de ça. Et dans mon prochain livre aussi, dans un des chapitres, j'explique aussi que paradoxalement, le wax en fait donne des couleurs et a participé au cliché qu'on a aujourd'hui sur l'Afrique. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'Afrique, de manière ancienne, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, elle est dans des couleurs très naturelles, très naturelles. Et aujourd'hui, on a vraiment l'image de manière folklorique, hein, fantasmée, d'un continent en couleurs. Et ça, en fait, tout ça, ça vient par l'intermédiaire du wax. Et puis aujourd'hui, comme je vous dis, c'est les colorants de cuve, etc. Mais c'est une fabrication, c'est ce que Osborne et Ranger appellent la tradition inventée. Et cette image de l'Afrique colorée, en fait, elle arrive très, très tardivement, alors qu'aujourd'hui, c'est l'image classique et banale qu'on peut avoir du continent africain.
D'accord. J'espère que le deuxième lac sera filmé. Merci beaucoup.
Alors, excusez-moi, moi, mon savoir, il est limité du fait, d'une part, de mes origines et d'autre part, ce que j'avais décidé au départ, c'est d'essayer d'avoir le plus d'infos possible en restant à Paris, là, localement. Donc, voilà. Mais vous avez parlé d'un sujet particulier. Donc, c'est je voyais bien que sur les broderies des femmes, sur les bamouna, qui sont les pagnes dans lesquelles bébés sont portés, qu'il y avait souvent le même losange en damier. Et j'avais posé la question au professeur Youssouf Tata Cissé, qui était donc un grand spécialiste de toute la culture d'Ogon, et qui m'a expliqué que c'était le symbole du daminium, qui fait donc le daminium originel, qui fait 11 par 11 carreaux, enfin en tout cas placé en losange, et qui représente la matrice originelle et le nombre de jours de gestation de l'enfant plus 1. Enfin bon, je ne sais plus, je ne veux pas étaler le peu de culture que j'ai, mais voilà. Et du coup, j'ai osé poser la question aux femmes qui portent savoir si elles connaissent encore le sens. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'elles ne connaissent plus le sens, mais qu'elles continuaient à broder, à avoir toutes l'eau d'un mignon. Certes, pas avec le chiffre exact, mais donc c'est avec le système des petites croix, comme une croix d'Agadès au départ en broderie, je crois que c'est Soninke, hein, les broderies, elles ont toutes la même technique. Et donc, moi je me suis dit, mais quel dommage, donc peu à peu ça va se perdre. Et effectivement, ça se perd déjà, parce que maintenant elles sont poussettes, elles poussent leur bébé. Et je dis, comment on peut aussi, c'est pas pour redonner tout le sens qui est en train de se perdre, de toute la symbolique de protection de l'enfant, en l'occurrence, de la force que ça lui donnait d'être porté dans ce tissu, comment re-enseigner tout ça, quoi. Et comment faire quand, madame, quand vous disiez tout à l'heure, oui, en fait, utiliser juste d'une façon esthétique les motifs qui ont une fonction très précise dans la tradition, effectivement, il peut y avoir un danger à le sortir du contexte, mais comment est-ce qu'on peut faire
en fait, ça doit pouvoir choquer des gens des gens qui viennent de tribus particulières, d'endroits particuliers, qui utilisent ce genre de motifs pour transmettre la tradition, peuvent être effectivement choqués que ça soit utilisé de n'importe quelle façon. Mm-hmm. Ça, on doit pouvoir le comprendre et on doit pouvoir le respecter. Et c'est pour ça que je posais la question de savoir si pour moi, le motif et la technique sont choses différentes. C'est-à-dire qu'on peut utiliser cette technique, il y a des tas de techniques dans le monde qui sont très belles et qu'on perd, et les utiliser différemment, avec des motifs différents, avec des supports différents. Mmh. Et c'était ça, la question, c'était de savoir si on différenciait bien les deux.
En fait, de rendre visible. De rendre visible et de raconter, en fait, de façonner autrement, et c'est tout l'exercice qu'on fait, notamment avec l'ACP, l'IFM et maintenant le CNRS, c'est d'éduquer à la connaissance, finalement, et de permettre d'éduquer, de sophistiquer le marché en lui permettant cet accès à la connaissance qui va faire que les choses vont perdurer et aussi s'ouvrir à de nouvelles esthétiques. Parce que tant qu'on est ici, on façonne. Enfin, de ce côté-ci de la planète, on façonne beaucoup les esthétismes. Parce que aussi, pour le cas de la France en tout cas, parmi nos exceptions culturelles françaises, on a la beauté, on a les cosmétiques et on a la couture. Et donc, on est façonneurs d'images. Ce sont des métiers qui sont très façonneurs d'images et qui, en communiquant, finalement, imposent des standards esthétiques. Et l'œil... Pour tout le monde, on est façonné sur ces imaginaires, ça crée des clichés et ça fait que nos standards esthétiques sont figés et limités. Donc plus on éduque à d'autres esthétismes, c'est pour ça que c'est pas mauvais non plus de voir des initiatives, même si au départ elles sont un peu mal faites, tant qu'elles sont corrigées. Parce que ça permet à l'œil de vulgariser et de se dire, voilà, pourquoi pas. Et après, on restitue l'histoire, la connaissance, et on ouvre des lieux de contextualisation et de préservation. Donc, il y a des prises de conscience qui se font et qui sont peut-être datées, qui seront datées de nos générations. Cette décision qui est fondamentale, qui va créer un précédent, autour de la restitution des œuvres d'art, on a tout un discours pour ce qui est considéré ici comme œuvre d'art, qui ne l'est pas dans nos tribus, dans ces centres, dans d'autres centres, parce qu'il y a une fonction différente. Mais ça éduque les gens et ça permet finalement de poser des vraies questions qui n'étaient pas prises en compte avant. Tout l'enjeu. Et peut-être dernière contribution, si vous voulez bien. Ou avant-dernière, parce que j'en vois deux.
Excusez-moi. Non, la seule chose, pour moi, je suis aussi optimiste que Stéphanie, bien sûr. Surtout qu'on mélange beaucoup de choses entre savoir-faire, culture, valeurs culturelles, sémiologiques et tout ce qu'on veut. En Europe, on ne s'est jamais posé des questions quand Christian Lacroix, qui est quand même un conservateur de musée à l'origine, à utiliser tous les symboles religieux d'Arles, etc. Ça ne nous pose absolument pas de questions. Donc, de problème d'utiliser ça comme source, parce que en fait toute source de création est culturelle. Plus on a de culture et de motifs ou de couleurs dans ces cultures, plus on va pouvoir être créatif. Et deuxième question par rapport à l'utilisation des motifs sacrés, par exemple, vous dites les pagnes qu'on porte pour les bébés, mais quelle source quand même pour les créateurs africains de faire des porte-bébés modernes avec les motifs traditionnels. Ils seront partout. On modernise le sens initial, et puis on a l'application uniquement qui s'est modernisée. C'est pas le sens.
La fonction.
La fonction et la sémiologie avec tout ça. Il y a plein d'autres choses, comme les bogolans, par exemple, pourquoi pas faire des vêtements de maternité, puisqu'il y a une connexion avec la maternité et la femme, etc. etc. Donc pour moi, plus vous allez enseigner les gens, notamment les Africains, les créateurs africains, plus il y aura des applications sur le marché qui seront acceptées.
Et puis plus les consommateurs de mode que l'on est tous,
ils vont tous suivre,
seront justement suivre. Dans l'achat de ce type d'objet d'une autre esthétisme, plus on pourra introduire. Voilà, maintenant ça vous a peut-être échappé ou pas, mais le nouveau directeur artistique de la Maison Vuitton est Virgil Abloh. Donc, il est aussi infusé de son imaginaire, et ça, c'est une très belle chose. Ça va nous un peu décentrer les regards et bousculer les codes.
Oui, alors en fait, c'est exactement... Bonjour, je me présente. Donc, moi, je viens d'un peu plus loin, donc j'arrive tout droit de Suisse, où je suis née, originaire du Cameroun. Mais ce que je trouve hyper intéressant, et je fais souvent Paris... la Suisse, c'est que typiquement en Suisse, en termes de consommation, donc le consommateur est beaucoup plus pose énormément de questions. Pour ça, ma présence aussi ici, parce que c'est vrai qu'on est amené, nous, en tant que vendeurs de textiles, à devoir répondre à beaucoup de questions. Et c'est vrai que je suis assez surpris que les différents salons que j'ai pu faire en France, les consommateurs me posent, je ne sais pas si c'est par gêne ou par, je ne sais pas, posent très peu de questions aux créateurs sur l'origine des tissus, sur la fabrication des tissus. Et je pense que c'est quelque chose aussi, un axe qui peut être, parce que c'est vrai, on dit souvent pourquoi ce n'est pas communiqué, pourquoi les gens ne savent pas, mais souvent, les gens ne posent pas la question, c'est-à-dire le consommateur achète sans poser cette question-là. Donc voilà, je trouvais intéressant de aussi donner cette responsabilité finalement au consommateur d'aller chercher et connaître et comprendre ce qu'il achète. Et l'autre chose par rapport à la mode africaine, moi c'est un terme que aujourd'hui il y a plein de choses qui sont assez claires dans ma tête et dans ma façon de communiquer, mais par rapport à ce terme mode africaine, je me demande s'il est encore, on parle de mode ethnique, alors ça c'est sûr que c'est à bannir, mais pour moi mode africaine c'est quelque chose que je n'utilise plus non plus. On va plutôt parler de créativité africaine, qui a pour moi beaucoup plus de sens. Je suis moi-même cofondatrice d'un événement qui est le marché international des tendances africaines à Genève, et on s'est rendu compte en faisant la charte éthique de cet événement que en communiquant dans la presse autour de mode africaine, beaucoup de personnes ne venaient pas en pensant que c'était une mode pour les Africains.
C'était communautaire.
Voilà. Et du coup, en parlant de créativité africaine, ça change tout de suite le regard. Aujourd'hui, j'entends jamais parler de mode russe, j'entends pas parler de mode allemande, j'entends pas parler forcément de mode asiatique, bon, peut-être vaguement dans les clichés kimono ou autre, mais c'est vrai que cette mode africaine, finalement, elle est un peu, pour moi, un peu... ce terme peut nuire et peut englober plein de choses, au même titre que parler de danse africaine, musique africaine. La danse africaine, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le village au Cameroun, on ne danse pas la même façon que dans le village de ma mère Annie au Sénégal. Donc, mode africaine aussi, c'est très englobant. Donc, pour moi, je voulais poser la question à vous qui êtes là-dedans. Est-ce que ce terme mode africaine n'est pas aussi amené à évoluer et peut-être parler de créativité africaine? Parce qu'aujourd'hui, on peut utiliser en effet les techniques et les savoirs de certains textiles pour en faire des créations qui ne sont pas du tout la mode africaine ou destinées à l'Afrique.
Tout à fait. Effectivement, même dans nos langages, tous les verbatims, enfin toute notre sémiologie, notre sémantique va évoluer. Mmh. Et c'est comme des steps qu'on doit passer. Effectivement, les dernières tables rondes au sujet de la mode, et notamment la mode africaine, étaient sur ce point particulièrement, de dire c'est trop clivant pour nous, c'est trop communautariste, on va attirer que certains médias, alors que on n'en parle plus, on a l'impression d'être isolé face au reste du monde de la mode.
Exactement.
Mais il s'est passé la même chose quand Dries Van Houten, Anne de Mellemeester, voilà, qui était même pas belge, qui était celle d'Anvers, au départ est arrivé sur le monde de la mode, c'était d'abord leur singularité, et puis après ça s'est fondu, ils sont devenus les monstres sacrés que, voilà, au départ on a besoin d'exercer l'œil, on a besoin de sophistiquer un petit peu cette consommation, et puis petit à petit, c'est ce qui se passe avec aussi un parallèle avec l'art contemporain africain qui fait un boom et qui permet aussi de, bah, c'est, moi j'identifie toujours ça au quota. Au départ, les quotas, c'est très condescendant quelque part, mais ça a quelque chose de bien de s'imposer. Et après, quand on est passé, ça veut dire qu'on a fait un pas, que tout le monde, quand plus personne ne veut de quotas pour se fondre mieux dans la masse et être reconnu pour tout ce qu'il a de différent, bah, c'est qu'on a fait du chemin. Donc, on en est là, précisément.
D'accord, que créativité africaine est beaucoup plus cohérente.
Plus juste, okay, ce serait plus juste maintenant qu'il n'a été avant. Voilà, on est pile dans cette génération. Nous, je pense qu'on est une génération. J'ai l'impression d'être une ancêtre, quoi. Mais de celle qui va façonner un peu
le langage.
Le langage, et nos enfants vont surfer sur encore autre chose. Donc, oui, oui. Tout participe à cette éducation et cette sophistication du marché.
En tout cas, merci beaucoup pour
avec tout ce grand plaisir. Je pense que c'était très quali. Merci.
Merci. On appelle votre intervention. Vous voulez parler aussi, Françoise ?
Vous aviez un micro.
Oui, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais il me semble que vous, on est en train de, avec ce que vous dites, de passer d'une clientèle, entre guillemets, locale à une clientèle citadine pour, dans les différents pays d'Afrique, et un changement complet de produits. Bon, si je, et on se trouve à peu près, enfin, il y a une espèce de bascule, et on se trouve à peu près dans la même situation que l'on pouvait observer en France au tournant du 19e siècle, où tout ce qui est artisanat textile populaire, local, a complètement disparu, et on est au moment où la mode, ce que, entre guillemets, la haute mode, la grande couture, a émergé de façon, et c'est devenu le seul sujet dans le domaine textile en France. Et je ne sais pas ce qu'on peut en tirer de ça, mais à de rares exceptions près, les grands couturiers n'utilisent plus les produits textiles artisanaux français.
Alors là, je vous arrête, je suis obligée de vous contredire.
La dentelle.
Non. Pas plus tard que la semaine dernière, vous aviez un salon qui s'appelait Made in France.
La plume, je suis désolée, la plume.
Non, au contraire, c'est restituer du précieux.
C'est là où de revenir. Mais oui. La plume, excusez-moi, c'est pas très populaire.
Allez voir la vitrine du
aussi.
Je sais pas si rue François 1er, la vitrine Dior de prêt-à-porter aujourd'hui est tout en. Il y a deux vêtements en plus loin.
Oui, on revient effectivement sur ces métiers d'un temps très artisanaux. Au contraire, on restitue du précieux là.
Mais il a fallu un siècle.
Alors ça ira plus vite.
On est optimiste alors. Ça va prendre le temps, mais on est optimiste pour l'Afrique.
Voilà.
On est très optimiste. Merci un très très grand merci à vous. Merci. C'était passionnant et on a vraiment hâte d'être
à la fin.
En juin, avec un super, vous êtes très doué en teasing, hein, je dois avouer que là, on va compter les jours. Super bien, merci infiniment.
Merci à vous. Merci.